Chapitre 3. L'Empereur. Je voyageais depuis un mois environ quand j'aperçus un parc immense entouré de murs, au milieu duquel s'élevait un château, le plus beau que j'eusse rencontré. Demeure de roi, pensais-je, il faut m'arrêter là. Je fus confirmé dans ce projet par une jeune rossignolette dont je me sentis épris à la première vue, sage, modeste et d'une distinction parfaite de forme. Nous convînmes de faire un nid dans les grands tilleuls plantés sur 8 rangs et qui ombrageaient les allées les mieux entretenues du domaine. Je me réjouissais de voir apparaître un roi de la terre que j'imaginais vêtu de pourpre et d'or, couronné de diamants, entouré de sa cour. Quel auditoire ! Et combien je comprenais peu alors la misanthropie de mon vieux maître. Mon père avait raison, pensais-je, il aimait les rois. Leurs palais sont, en effet, un séjour délicieux. Cependant, je fus étonné de ne pas obtenir plus vite le succès auquel je croyais avoir droit. À l'heure où, perché près du nid, je commençais à chanter, les salles s'illuminaient là-bas. C'était presque tous les soirs des repas somptueux, des réceptions, des bals, dont le bruit arrivait par bouffées jusqu'au tilleul. Quelquefois, les invités sortaient sur la terrasse, le prince lui-même s'y montra, autant que j'en pus juger par l'empressement de la foule qui l'entourait et me le cachait. J'avais alors de grandes tentations de me rapprocher du château et de jeter, au milieu de cet auditoire élégant et raffiné, l'étrille vainqueur de mes préludes. La gloire me poussait loin du nid. Mais le regard tranquille de ma chère couveuse m'y retenait. Elle n'aurait compris aucune ambition qui m'entraînât loin d'elle. Tout devait tenir dans le lit, la gloire avec l'amour, et sa naïve tendresse se réjouissait pour moi quand un pas humain faisait craquer le sable des allées. Or, en 4 semaines, si j'excepte les jardiniers, il vint en tout sous les tilleuls 2 pages qui riaient en lisant une lettre, une jeune femme qui monta dans un bateau et traversa le lac avec un beau seigneur, et 3 palefreniers qui se baignèrent en cachette. Le reste du temps, les avenues demeurèrent désertes. Les rayons de la lune y remplaçaient les rayons du soleil, et c'était tout. Je commençais à me plaindre du sort quand, un après-midi, une 12aine de manœuvres armées de pelles et de râteaux entrèrent sous le dôme des tilleuls. « Pas une herbe, pas une feuille morte, dit le chef, car l'empereur va venir. » Et ils se mirent à travailler âprement. Tout le bosquet s'émut. Le jet répéta sur tous les tons, du grave au burlesque. « L'empereur, messieurs, l'empereur !» Les paons essayèrent quelques roues étincelantes sur les pelouses. Les cygnes s'approchèrent du bord de l'eau en mirant leur long col avec des airs penchés. Il n'y eut pas jusqu'à ma rossignole qui, pour mieux voir, s'avança sur ses œufs au risque d'en découvrir un et de l'empêcher d'éclore. Comme elle était fort peu instruite des choses du monde, je lui expliquai le sens de ce mot nouveau pour elle. « Les empereurs, lui dis-je, sont des hommes très puissants qui gouvernent les États et aiment les rossignols. » Elle se tint pour satisfaite et attendit l'heure de mon triomphe avec une entière confiance. J'étais plus ému qu'elle et je répétais en moi-même les plus belles mélodies que j'avais apprises au bord du Rhin. Enfin, vers le soir, il se fit un mouvement à la porte du palais. Un groupe d'hommes sortit. 2 d'entre eux se détachèrent des autres et s'acheminèrent lentement à travers les allées du parc. Le plus grand, taillé en colosse, portait un uniforme blanc. L'autre, très vieux, voûté, l'expression moins dure et plus fine, s'appuyait sur le bras de son compagnon, et je compris, au respect dont il était l'objet, que c'était là l'empereur. Il portait un habit de ville. J'en fus presque honteux pour lui. Ce face oriental dont j'entourais les princes ne s'évanouit pas sans emporter quelque chose du prestige dont il jouissait dans mon esprit. Après tout, pensais-je, c'est un homme. Ils s'approchèrent peu à peu et entrèrent sous les tilleuls. Déjà fatigué, bien que le chemin parcouru ne fût pas de 1000 mètres, le vieil empereur fit signe qu'il voulait s'arrêter et tous 2 vinrent s'asseoir sur un banc au-dessous de notre arbre. Mon cœur battait d'émotion. Je me dressai sur une branche, dans une éclaircie du feuillage, à 10 pieds de leurs têtes augustes, et, l'œil aux cieux, je commençai à chanter. Je chantais bien, j'en ai conscience. Le petit tremblement qui agitait ma voix au début disparut assez vite, et les notes sonores, pures, s'échappèrent de mon gosier. Je fus tendre et élégiaque, je cherchais à ramener, dans ces esprits accablés de soucis, la paix dont ils semblaient avoir grand besoin. Après quelques minutes, je me tus et je rabaissai les yeux vers ma compagne qui n'avait cessé d'observer l'auditoire. « Eh bien, lui demandai-je, qu'en disent-ils ? » « Rien encore, ils paraissent ne point entendre. » « Fort bien, répondis-je, il leur faut la note héroïque, l'épopée, le drame où ils ont coutume de vivre. « Oh, messeigneurs, je puis vous raconter une histoire tragique, écoutez-moi. » Je relevai la tête et je racontai une légende pleine de contrastes, délirante de joie et soudain traversée de larmes. J'ai mis toute la passion, tout l'art dont j'étais capable, et je vis en finissant que ma rossignole me considérait avec admiration. « Ils sont domptés, m'écriai-je. « Pas encore. Vous croyez ? Écoutez-les, mon doux maître. » Ils parlaient tous deux à mi-voix, l'empereur d'un ton exténué, avec un timbre mort, l'autre, qui devait avoir dans la poitrine la puissance du tonnerre, se contraignait pour diminuer son souffle et ne pas effaroucher par sa prodigieuse vitalité la faiblesse énervée du vieux. « Pensez-vous, disait l'un, qu'il y aura longtemps encore des rois ?»« Sire, répondait l'autre, ce que je sais bien, c'est qu'il y aura toujours des sujets. »« Qui donc gouvernera ?»« Tout le monde. » »« Alors je plains tout le monde. » Et je m'en vais plus volontiers à l'éternel repos. Mais savez-vous, prince, que vous n'y entrerez pas, vous ? Pourquoi, sire ? Vous aimez trop la guerre. Le vieux souverain se prit à rire en tremblotant. Un éclair passa dans les yeux de l'autre, qui ressemblèrent à ceux d'une bête de proie. La guerre, répliqua-t-il, sire, vous lui devez tout. Et après un silence, je disais donc tout à l'heure qu'il fallait veiller au nord. Comme ils étaient loin de toute émotion musicale, j'en fus un peu froissé, mais surtout attristé pour eux. Peut-on avoir l'esprit si occupé des soins de la terre qu'on n'entende pas un rossignol qui chante à quelques pieds en l'air ? Une ardeur nouvelle s'empara de moi. Je résolus à tout prix de secouer l'incroyable torpeur de ces deux hommes et je repartis pour les hautes régions de l'inspiration. Bientôt, je m'aperçus que la conversation languissait. Tout bruit cessa et j'eus la certitude qu'on m'écoutait. Par coquetterie, par reconnaissance aussi, je continuai à chanter, prolongeant ma victoire et leur plaisir. Je ne m'arrêtai qu'à bout de force. Alors mes yeux, quittant les étoiles, s'abaissèrent vers le nid. Ma jeune couveuse était assoupie. Je regardai plus bas. L'empereur dormait. Il dormait, la tête renversée sur le dossier du banc, pâle sous la lune, comme les habitants de ce séjour dont il avait parlé. L'autre, ayant déboutonné sa tunique pour se pencher plus aisément, dessinait, du bout de sa canne, des cartes de géographie sur le sable. Cette aventure me causa un dépit profond. Elle désenchanta pour moi ce jardin, qui m'avait paru si merveilleux tant que l'espérance et l'amour l'avaient habité ensemble. L'amour seul demeurait, et dussé-je être accusé de blasphème par d'autres rossignols moins désireux de la gloire, l'amour ne suffit pas. « Pauvre père, me disais-je souvent, si jamais mon chemin croise le vôtre, je vous dirai ce qu'il en est des rois d'aujourd'hui. Ceux de votre temps avaient sans doute plus de loisirs et de liberté d'esprit. Ils écoutaient le rossignol. À présent, ils dorment sur les bancs, épuisés d'âge et d'affaires. L'expérience me suffit. » Au printemps prochain, je m'adresserai à quelques gentilles damoiselles, comme j'en ai vu passer là-bas sur la terrasse. C'est dans le cœur des femmes que doit vivre encore, ô mon père, le culte de toutes les poésies.